10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Damien Fleureau, Michaël Darmon.
Bonjour Anne Hidalgo.
Bonjour.
La bataille du temps est celle de cette décennie du 21e siècle. Comment rétribuer le temps d'une vie passée à travailler? Ce débat vrille en ce moment la société française avec la réforme des retraites. Combien de temps reste-t-il avant une catastrophe climatique qui transformera une partie de la planète en désert pendant que l'autre sera engloutie? Entre la nature et les humains, c'est aussi une course contre la montre. À Paris, qui héberge toutes nos institutions politiques, qui accueille 30 millions de touristes chaque année, qui appartient à tous les Français, vous voulez faire la ville du quart d'heure et remettre la nature dans la ville, si vous êtes bien sûr réélu après 6 ans de mandat, parce que pour vous, il n'y a plus le temps. Anne Hidalgo, on connaît la prime au sortant, vous avez inventé la prime au clivant. Votre action qui consiste à bouter la voiture hors de Paris a fait de vous un sujet permanent de controverses, de polémiques, de contestations. Votre conviction est que la pollution est la prochaine catastrophe sanitaire et vous forcez les Parisiens et habitants de la périphérie également à changer leur comportement. Votre forte personnalité et caractère sont connus de tous. Il y a même une expression antillaise utilisée par certains pour vous qualifier, potomitante, pour dire une femme qui tient la maison. Alors au final, que se passe-t-il lorsqu'un dirigeant applique le programme sur lequel il a été élu? C'est une des énigmes de ce scrutin capital pour les élections de mars, pour vous et pour ceux qui veulent prendre votre fauteuil à droite et à La République En Marche, où ils s'y mettent même à deux. Pour vous interroger, Damien Fleureau de CNews, Cécile Cornudet des Échos, qui ouvre cette émission sur une question d'actualité urgente.
Oui, sur le coronavirus. Bonjour Anne Hidalgo.
Bonjour.
L'épidémie s'accélère, dit le président chinois. En France, 3 cas ont été confirmés. 2 sont traités à l'hôpital Bichat à Paris, 1 à Bordeaux. Est-ce qu'il faut qu'on s'inquiète et est-ce qu'il faut que la ville de Paris prenne des mesures?
D'abord, toute ma solidarité, bien sûr, avec les autorités chinoises, parce que ce qui se passe en Chine est vraiment dramatique. Et j'ai rencontré hier la communauté chinoise de Paris, qui, bien sûr, est dans l'émotion, dans l'inquiétude, qui a souhaité, d'ailleurs, annuler elle-même le défilé prévu cet après-midi, place de la République. Mais pour autant, bien sûr, que la situation en France n'est pas du tout de même nature. C'est le ministère de la Santé avec lequel on travaille. C'est, bien sûr, il faut un pilote et un seul dans l'avion. Ce sont les autorités sanitaires qui ont mis en place des contrôles de l'accès, notamment à nos frontières dans les aéroports. Le dispositif des hôpitaux prêts à fonctionner est, bien sûr, là aussi activé. Les 2 personnes hospitalisées à Paris sont à Bichat. Je prends régulièrement de leurs nouvelles. Ce sont 2 touristes. Ils vont plutôt bien au moment où on se parle et si besoin était, d'autres hôpitaux pourraient être activés. Donc je crois qu'il faut bien sûr ne pas céder à la panique, mais en même temps être vigilant et puis respecter aussi la décision des associations chinoises de Paris qui n'avaient pas vraiment le cœur à la fête.
Le gouvernement chinois vient d'interdire les départs de groupes de touristes chinois vers l'international, donc vers la France. On sait combien ils sont importants pour le tourisme parisien. Est-ce que ça, c'est un sujet d'inquiétude? Qu'est-ce qu'on peut anticiper?
Non, d'abord, je pense qu'il faut que les précautions soient prises à l'endroit d'où part notamment cette épidémie, puisqu'elle est très grave. Il y a déjà en Chine de nombreux morts,
56.
Une situation sanitaire extrêmement difficile. Donc, il faut prendre les précautions. C'est évident, et puis enrayer cette crise sanitaire en mettant justement toutes les protections en France.
Pas d'inquiétude pour le tourisme parisien.
Mais on verra dans les semaines qui viennent, mais je pense que dans ces situations-là, vous savez, c'est le principe de précaution qui prime, et la santé d'abord.
Alors Hidalgo, justement, vous venez d'abord effectivement de confirmer ce matin au grand rendez-vous que une des premières conséquences de cette affaire du virus chinois, c'est l'annulation du Nouvel An chinois à Paris, en tout cas cet après-midi par les associations, mais en tout cas effectivement c'est une des conséquences. On va bien sûr parler de votre projet de candidate donc à la mairie de Paris, candidate à votre propre succession. Tout d'abord, quelques avis recueillis dans la rue au micro de CNews pour le grand rendez-vous. On écoute, on regarde.
La circulation des voitures, on est moins empoisonné, c'est sûr.
Je l'encourage à continuer, pourtant j'utilise la voiture tous les jours.
Je vois pas comment, par exemple, les seniors vont faire pour se déplacer hors de route.
C'est inadmissible de voir la capitale de la France dans un tel état de saleté. Anne Hidalgo, vous allez revenir sur chacun de ces sujets, la mobilité, la propreté, et on aura le temps au cours de cette émission. On voulait vous interroger sur votre projet et la manière, la façon dont il s'inscrit dans les enjeux de l'époque. Mickaël en a parlé. Votre sujet pour vous, c'est l'urgence climatique. Vous voulez aller encore plus vite qu'au cours de ce mandat?
D'abord, on a pris beaucoup trop de temps dans notre pays, sur la planète. Vous savez, j'ai la chance d'être soutenue, il est là sur le plateau, par Jean Jouzel, qui est prix Nobel, qui est un climatologue, qui nous a alertés il y a déjà longtemps sur la nécessité à agir vite.
Il reste combien de temps?
Et donc, il reste 10 ans pour vraiment poser des actes, pas
donc
pour réfléchir et penser. Et on a beaucoup agi. C'est vrai que dans ce mandat, en 2014, quand j'ai été élue avec toute mon équipe, on avait une ambition écologique très forte. Avec Christophe Najowski, on savait que ça allait être le mandat du vélo, qu'on allait transformer les infrastructures de la ville pour permettre justement la pratique du vélo, parce que c'est une solution contre la pollution atmosphérique et une solution pour se déplacer. On savait tout cela, mais c'est vrai qu'on a eu la COP21, l'accord de Paris qui a été conclu en 2015, sur lequel nous nous sommes beaucoup engagés. Je dis nous, les maires de France, les maires du monde entier. J'ai eu la chance et l'honneur de porter pendant plus de 3 ans une grande association de maires du monde entier sur justement les enjeux climatiques. Et je constate que partout dans le monde, c'est à partir de ces pouvoirs locaux, des citoyens et des associations que nous sommes en train de transformer les choses. Et
il faut, même s'il y a des réticences.
Alors, les réticences, elles sont évidemment très importantes, mais et il faut les comprendre, il faut les entendre. Changer de modèle, c'est quelque chose de compliqué. Quand vous avez
été
habitué à prendre la voiture... Une ville comme Paris, elle a été construite autour de la voiture. Hein. C'est à partir de 2001 qu'on commence à dire...
Et maintenant, c'est autour du vélo qu'on a construit. C'est 100% vélo,
c'est
votre projet.
D'abord le piéton, mais bien sûr, mon projet, 100% vélo.
C'est le nouveau clivage, la bagnole contre la trottinette et la bicyclette.
C'est pas un clivage. Je vous entendais tout à l'heure dans le commentaire. Vous savez, conduire un changement, c'est difficile. Et bien sûr qu'il faut faire beaucoup de pédagogie. On n'est pas tout seul à faire cette pédagogie. Mais quand je discute avec les Parisiens, quand même, globalement, majoritairement. D'abord, ça fait longtemps qu'ils utilisent les transports en commun. Quand il n'y a pas de grève, bien sûr. Bon. Ils utilisent les transports en commun.
Parler.
Ça fait longtemps qu'ils utilisent la marche à pied. 9 Parisiens sur 10 utilisent la marche
c'est
à pied,
premier mode
le métro, le vélo. 9 sur 10, ça veut dire qu'il y en a 1 sur 10 qui utilise sa voiture. Si je prends les Franciliens, c'est 8 sur 10. Il y en a 2 sur 10 qui prennent leur voiture. Donc, c'est déjà quelque chose qui est inscrit. Mais ça a été difficile. Et puis, voilà, il y avait aussi beaucoup de gens qui n'avaient pas intérêt à ce que ça change. Hein. Je pense à tout le lobby, quand même, des industries et des énergies
oui,
fossiles.
Vous faites allusion à ce qu'on a appelé le fameux Hidalgo bashing. Mais
non.
Vous faites allusion à ça.
Je fais référence au fait qu'il y a des intérêts économiques très puissants. On les a vus à l'œuvre, notamment autour du diesel, pour que le diesel reste... voilà, on nous a dit, hein, encore récemment, que le diesel était propre. Ben non, il n'est pas propre. Et il a fallu aussi... porter une parole face à ces lobbies. Et moi, je suis heureuse aujourd'hui avec toute l'équipe qui m'a accompagnée sur ces 6 années, avec tous ceux qui ont soutenu. Je suis heureuse de voir que notre ville apparaît comme une ville qui s'inscrit vraiment dans la transition
alors,
écologique.
Alors, on va continuer à en parler. Damien Fleurot.
Oui, cette semaine, donc, vous avez présenté une partie de votre programme axée autour de cette idée de la ville du quart d'heure. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est si compliqué que ça aujourd'hui de se déplacer, ou si long que ça, pour accéder à des services publics, par exemple, à des commerces, à son travail?
Non, d'abord, à Paris, vous savez, on a aussi la chance d'avoir, par exemple, une station de métro ou une station de bus à moins de 10 minutes à pied de chacun de nos domiciles. On a déjà, parce qu'on est une ville très dense, cette proximité. Mais il s'agissait pour nous, et avec Carlos Moreno, qui est ici, qui est aussi un scientifique, je m'appuie beaucoup sur des scientifiques, qui a travaillé sur cette notion, là aussi à l'échelle internationale, l'idée étant de dire ce qui se passe autour de moi, de chez moi, à un quart d'heure de chez moi, comment je peux avoir une qualité de vie meilleure en trouvant les services publics, en trouvant les commerces, en trouvant les possibilités de me déplacer à pied, en vélo. et finalement d'avoir cette qualité de vie à l'échelle du quartier où on me reconnaît. Nous sommes dans une grande ville où il y a beaucoup d'anonymat et beaucoup viennent le chercher. Mais pour les Parisiens, ça je le dis et je sais que nos amis qui nous écoutent, qui sont en province, le savent quand ils viennent à Paris. Il y a aussi cette vie de quartier, cette vie de village. Et c'est à partir de cette vie-là que nous voulons aussi accroître la qualité de vie.
Parisien qui disait, je doute que des seniors puissent prendre la trottinette, le vélo. Comment vont-ils pouvoir se déplacer les personnes qui veulent quand même le faire en voiture? Est-ce que les taxis vont jouer un rôle? Est-ce que vous allez avoir est-ce que la mairie va diriger les taxis comme à New York? Comment vous allez inventer?
D'accord, sur la mobilité, c'est effectivement le sujet numéro un, mais je vous disais tout à l'heure quand même que 9 sur 10 se déplacent
pas en voiture. Mais à un moment donné, il faut parfois pouvoir se déplacer en
voiture.
Mais
il y a des gens qui auront besoin de se déplacer. Je pense aux commerçants qui ont besoin évidemment de faire des livraisons. On est en train de travailler beaucoup de solutions avec eux. On travaille très bien avec Pascal Barillon, président de la Chambre des métiers de Paris, sur des solutions qui permettent justement d'aller sur ce dernier kilomètre, pas forcément avec des gros camions. Je ne veux plus de ces gros camions dans Paris. En plus, ils génèrent de l'insécurité routière.
Ou les autocars. Nous avons
une petite fille qui est décédée dans le 16e arrondissement et c'est dramatique.
Alors comment on déménage, par exemple?
Sur un passage
comment
piéton.
Comment on déménage
sur
quand
un
on est
passage
particulier
piéton.
À Paris
et donc,
sans grand camion, comment
donc,
on déménage?
Il faut évidemment que la mobilité soit quelque chose qui soit élargi. D'abord qu'on puisse se déplacer à pied, qu'on rapproche les services, et on a la chance de pouvoir le faire à Paris, de chacun de nos domiciles. Et par ailleurs, vous avez parlé des taxis, je veux dire un mot à leur sujet. Pour moi, ils font partie du service public des transports. Je leur dis souvent, ils n'ont pas été très contents au début de nos mesures à Paris, et je leur disais, vous savez, en fait, nous vous protégeons, je vous protège, en faisant en sorte que les Parisiens qui peuvent se passer de leur voiture, parce qu'il y en a qui peuvent se passer de leur voiture, prennent le taxi, c'est du travail pour vous, et une ville dans laquelle seuls ceux qui ont vraiment besoin de prendre la voiture individuelle la prendront. C'est une ville dans laquelle finalement la fluidité de la circulation sera plus grande.
Est-ce que vous voulez municipaliser les taxis?
Non, je ne veux pas municipaliser les taxis. En revanche, je souhaite vraiment que la maire de Paris, ait, comme à New York ou dans d'autres grandes villes, la possibilité de réguler beaucoup mieux. Il y a les taxis, il y a les VTC qui posent un autre problème et je préférerais que, comme à New York, par exemple mon collègue qui peut décider, ou même à Londres, que la maire de Paris puisse décider avec ses transporteurs, que sont notamment les taxis, de ce qui est bien pour eux, parce qu'il faut qu'ils puissent vivre de leur travail et il faut bien sûr que nous puissions permettre la mobilité dans la ville.
Justement, on va continuer à parler de ces sujets qui nous transportent, nous intéressent et nous fâchent parfois également. À tout de suite.
10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et on retrouve Anne Hidalgo, maire de Paris et candidate à sa succession pour les municipales donc, de mars prochain. Cécile Cornudet.
Oui, vos adversaires trouvent que vous n'allez pas assez loin sur les questions écologiques. Benjamin Griveaux, aujourd'hui dans le JDD, propose de déplacer la gare de l'Est pour créer un Central Park. Cédric Villani, lui, veut déplacer la gare du Nord. Ils disent que vous bétonnez. C'est bitume et béton, Anne Hidalgo. C'est des idées un peu spectaculaires, mais bon, est-ce qu'il ne faut pas un grand coup spectaculaire pour mettre du vert dans Paris?
D'abord, je suis très heureuse qu'il y ait des propositions de fonds et qu'on puisse débattre autour de projets de fonds. Ensuite, je suis très heureuse de voir que plus personne, par exemple, ne veut remettre en doute, en cause ou revenir sur, par exemple, les voies sur berge piétonnes, puisque dans l'équipe de Benjamin Griveaux, la maire du 9e arrondissement, Mme Burkly, ou la maire du 5e arrondissement, Mme Berthoux, ont signé un recours contre ces voies sur berge. Donc je constate que finalement, là-dessus, on est passé à autre chose. J'ai vu ce matin effectivement le projet sur la gare de l'Est. Moi, ma conviction, c'est que nous avons besoin de gares dans Paris. La gare de l'Est, la gare du Nord.
De la saturation.
La gare de l'Est, la gare du Nord sont des grandes gares, à la fois qui desservent un trafic international, mais aussi beaucoup, pour l'essentiel d'ailleurs, en majorité, un trafic francilien ou, je dirais, avec des régions voisines. Donc ça, joue un rôle très très important dans l'économie de notre ville. Et moi, je ne suis pas pour que, comme ça a été souvent le cas avant 2001, tout ce qui nous gênait, on le mettait à l'extérieur, en banlieue. Je pense qu'il faut absolument qu'on garde, justement pour la mobilité, hein, vous imaginez tous ces Franciliens qui arrivent à la gare de l'Est ou à la gare du Nord, à la gare de l'Est ou à la gare du Nord, et qui se retrouvent vraiment, j'irais presque au pied de leur bureau, et là on leur demanderait de s'arrêter plus loin. Vous savez, on est en train de construire avec la Société du Grand Paris, avec la Métropole du Grand Paris, 38 gares d'ici sur le Grand Paris d'ici 2025-2030, 60 gares si on va sur un laps de temps plus long. Donc il faut vraiment avoir une approche qui soit d'abord coordonnée à l'échelle métropolitaine.
Il va plus loin que ça, Benjamin Griveaux. Il va plus loin, il vous dit, il a cette formule, Hidalgo, c'est B. B, bétonné, bitume.
Oui, vous savez.
Quel est votre Central Park à vous? Il est où?
Alors, déjà, notre Central Park à nous, on l'a fait, c'est les voies sur berge. 8 hectares qui ont été libérés des voitures. C'était une proposition qu'on avait depuis très longtemps sur la rive gauche et sur la rive droite. Notre approche à nous a été justement une approche, là, depuis 6 ans, de remettre de la nature en ville. Et puis, dans les propositions que j'ai faites, vous savez, moi, je préfère d'abord projet de déplacer la gare du Nord, de l'Est. Pardon. J'aimerais bien savoir ce qu'en pense le ministre des Transports ou le président de la SNCF. Ça serait intéressant de le savoir pour parler aussi quand même de sujets qui sont à un horizon et qui sont dans un réalisme qu'on doit aussi quand même à nos concitoyens.
Mais est-ce que c'est pas de l'ambition?
Moi, je préfère sincèrement d'abord, maintenir les gares dans leur fonction de gare. On en a besoin pour la mobilité et il vaut mieux miser sur le transport, les transports en commun, SNCF, RATP, que sur des voitures et sur le réseau autoroutier. Je préfère que les gens viennent en train à Paris plutôt que par route dans leur voiture individuelle. On connaît la situation. La deuxième chose, c'est que je préfère évidemment mettre des moyens conséquents sur des projets qui sont des projets emblématiques.
Parce que c'est irréaliste pour moi, pour vous, projet, en fait, ce projet.
Un peu quand même. Pour moi, le projet très important, c'est par exemple la transformation de la Porte de la Chapelle avec un très très grand parc urbain. Et cette transformation de la Porte de la Chapelle, elle s'inscrit dans une vision très différente de celle de mes adversaires, qui est de dire il faut qu'on transforme le périphérique, que les portes deviennent des places et que par ailleurs, on travaille mieux nos liaisons avec nos voisins. Je pense à la Seine-Saint-Denis, au Val-de-Marne, ou bien sûr aux Hauts-de-Seine. Donc vous voyez, on n'est pas dans la même approche parce que moi je ne crois pas qu'il faille aujourd'hui et dans une perspective de transition écologique s'attaquer aux gares et aux transports en commun. Au contraire, on a besoin. Et même pour une raison de pouvoir d'achat, vous imaginez tous
alors
les gens qui ne pourraient plus venir
pour le pouvoir d'achat, on va y
par
venir.
Le train ou le RER dans Paris, ils feraient comment?
Alors ça, effectivement.
Ils paieraient comment?
Alors, pendant que vos adversaires s'intéressent aux gares et aux places végétalisées, vous vous intéressez aussi également aux classes moyennes. Symboliquement, vous avez déclaré votre campagne justement dans un ancien local commercial transformé en logement social. Mais j'ai noté également que dans votre dernier livre, vous évoquez San Francisco comme une ville qui vous intéresse beaucoup parce qu'elle abrite des grands sièges. Donc d'entreprises mondialement connues, comme Twitter par exemple, mais qu'en même temps ça aggrave les inégalités, ça transforme aussi la ville parfois en ville musée. Vous dites Paris peut éviter cette fatalité. Comment faire en sorte éviter que les familles qui partent d'ailleurs actuellement, parce que c'est difficile de vivre à Paris quand on a déjà à partir de 2 enfants, comment faire pour les maintenir?
Vous avez raison, j'ai pris cet exemple de San Francisco, qui est une ville extraordinaire où on a toute l'économie d'Internet, du net, de la tech qui est présente. Et on aurait pu se dire, c'est une ville dirigée par une maire démocrate qui est vraiment extrêmement intéressante, mais qui n'a pas de levier en matière de logement. Et donc, ma collègue de San Francisco, face justement à la gentrification, face au fait que les classes moyennes, les catégories populaires sont chassées...
Alors à Paris, comment vous faites ?
Eh bien, elle n'a pas de levier, et notamment de logement. Nous, à Paris, on a ce levier-là. Yann Brossa est ici, c'est mon adjoint chargé du logement. Ensemble, on a mis 3 milliards d'euros d'investissement sur le logement social et intermédiaire à Paris. Il y a à faire un effort extrêmement important pour maintenir les classes moyennes et les catégories populaires.
On a l'impression que ce n'était pas forcément la priorité de votre mandat et que c'était justement la lutte contre la voiture.
Sortons des impressions. Dans ce que j'ai porté et ce que nous avons fait, parce qu'il y a ce qu'on dit et ce qu'on fait, et voilà, il y a des preuves. Il y a bien sûr l'écologie, mais il y a aussi bien sûr le maintien des classes moyennes et le logement social et intermédiaire. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, à Paris, la population qui vit à Paris est composée à 80% de classes moyennes et de catégories populaires. 80% de la population parisienne est composée de classes moyennes et de catégories populaires. J'ai fait faire, sur la base d'une étude de l'OCDE extrêmement intéressante sur les classes moyennes et sur le décrochage des classes moyennes, j'ai fait faire une extrapolation sur Paris par l'atelier parisien d'urbanisme qui me donne ces chiffres. Ils sont publics, ils seront publiés cette semaine. Et ce que me dit aussi cette étude de l'atelier parisien d'urbanisme, c'est pourquoi on arrive dans une capitale où le prix de l'immobilier est aussi cher, le prix de l'immobilier privé est à plus de 10 000 euros le mètre carré. Pourquoi on arrive à maintenir 80% d'une population classe moyenne et catégorie populaire ? C'est notamment grâce à l'effort fait en matière de logement social. Et d'ailleurs, ces 10 dernières années, la proportion des classes moyennes accédant au logement intermédiaire, logement social, a augmenté de plus de 7%.
Alors, on entend effectivement votre démonstration et vos arguments, mais Cécile Cornudet,
oui, comment on fait pour baisser le prix du mètre carré que vous venez d'évoquer quand on arrête les constructions ? Vos partenaires verts sont très réticents à des nouvelles constructions.
Partenaires éventuels, une prochaine éventuelle mandature, si vous êtes réélu.
Il y a de l'offre et de la demande. Donc, comment vous gérez ce paradoxe ?
D'abord, vous savez, il y a le marché privé. Le marché privé, on a dit 10 000 euros le mètre carré à l'achat et 30 euros le mètre carré à la location. Avec Yann Brossa et toute mon équipe, ce qu'on a fait, on s'est battu d'abord pour l'encadrement des loyers. On l'a obtenu, il est à l'œuvre et bien sûr il faut du temps pour que ce soit efficace. On a également pris un certain nombre de mesures sur Airbnb parce qu'un des éléments et les plateformes de location saisonnière, un des éléments.
Vous faites un référendum d'ailleurs sur Airbnb. Voilà, quelle est la question que vous allez poser aux Parisiens ?
On va poser la question notamment sur la régulation. Quel délai ? Vous savez, moi je suis pour que les Parisiens puissent louer leur chambre, leur appartement et mettre un peu de beurre dans les épinards. En soi, mais je ne suis pas pour que, à échelle industrielle, on se mette à transformer mais vraiment à pourrir la vie de beaucoup de Parisiens qui m'expliquent que tous les matins, les valises à roulettes dans les escaliers.
Donc le délai, c'est quoi ?
Et surtout, ça retire beaucoup de logements du marché.
Combien de logements sont retirés ?
60 000 logements aujourd'hui. Si on compte environ 34 000 via les plateformes type Airbnb et le reste, donc en tout 60 000 logements qui sont souvent des résidences secondaires et des logements vacants.
Donc l'idée de la consultation serait de limiter le délai
On va travailler ensemble, mais moi je pense qu'une proposition autour de 30 jours de location serait largement suffisante et on posera cette question aux Parisiens avant l'été, si je suis réélue avec mon équipe, avant l'été pour pouvoir, parce que j'ai essayé d'obtenir, notamment au Parlement, ces avancées et on m'a dit que les plateformes étaient trop importantes. Plateformes, au passage, qui ne payent pas leurs impôts en France. Elles payent en gros les impôts d'une PME. Donc je pense qu'il faut vraiment, sur la question du logement, sur le marché privé, qu'il y ait cet effort-là de
faire.
Et nous continuerons bien sûr sur le logement social, puisqu'on voit bien son utilité pour les classes moyennes et les catégories populaires. Et je crée un nouvel outil qui est une société immobilière avec le secteur privé pour lever, on pense pouvoir lever 20 milliards d'euros avec bien sûr un apport de fonds de la ville de 1 milliard, avec, je l'espère, la Caisse des dépôts pour 2 milliards, et aller chercher aussi cette levée sur le privé pour pouvoir fabriquer, construire du logement en location à des prix inférieurs au prix du marché pour les classes moyennes. Et je sais que les grandes institutions financières, les banques, les assurances, ont envie de venir.
Effectivement, on continue à en parler avec la question en troisième partie, mais que fait la police ?
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et on retrouve Anne Hidalgo, la lutte contre l'insécurité, avec quelle police, bien sûr, s'impose dans cette campagne. On va en parler, on écoute d'abord, on regarde, Cédric Villani.
Il y a certains quartiers dans lesquels on ne se sent pas en sécurité, dans lesquels on a l'impression qu'on va se faire agresser, et on a besoin d'avoir des personnes sur le terrain qui lutteront contre cela.
Anne Hidalgo, on entend Cédric Villani, il milite pour une police municipale. Comme vous, dans cette campagne, vous avez changé d'avis sur ce sujet. Pour quelles raisons ?
J'ai changé d'avis, notamment après les attentats de 2015, où nous avons vu que la police nationale était concentrée sur la lutte contre le terrorisme. Et puis après, en 2016-2017, très concentrée sur les questions de maintien de l'ordre. Aujourd'hui, on ne voit pas suffisamment de policiers de la police nationale sur le terrain à Paris, y compris sur la sécurité routière. Et donc, bien sûr que j'ai pris cette décision à partir de 2015, d'aller vers quelque chose qui s'appelle une police nationale. Je remercie d'ailleurs Cédric Villani d'avoir voté à l'Assemblée nationale l'amendement qui aurait permis, avant la fin de ce mandat,
contrairement à Benjamin Griveaux,
de mettre en place cette police municipale.
Parisienne, spécifiquement parisienne. En quoi sera-t-elle armée, par exemple ?
D'abord, une police municipale, bien sûr, parisienne. Pour moi, elle doit faire partie de ce grand service public municipal qu'est la fonction publique parisienne. Je souhaite que cette police municipale, bien sûr s'inscrivant dans les règles nationales, mais puisse être formée. Je créerai une école de formation pour ces policiers municipaux dans laquelle la question du respect sera une question très importante. Vous savez qu'à Paris, on est confronté à beaucoup de sujets. La question de l'antisémitisme, la question de l'homophobie, la question du sexisme et du racisme. Je veux que cette police municipale soit formée. Et d'ailleurs, j'ai dit que cette police municipale serait paritaire. Autant de femmes que d'hommes sur le terrain pour déployer une force. Aujourd'hui, j'ai 3400 agents municipaux qui sont déjà déployés avec un grand flic à leur tête, Michel Felquet, qui vient de la police nationale. Et nous aurons 5000 agents. C'est à peu près le calibrage.
Paritaire,
je crois,
et
que
armé,
tout le monde s'entend là-dessus.
Paritaire et armé.
Alors, armé, vous savez, la question sur l'armement est une question qui marche bien sur les plateaux. La question, c'est pourquoi faire.
Le principe.
Bien sûr que, comme toutes les polices municipales de France, une police a un armement non létal. Voilà. Il y a très peu de polices municipales en France qui ont un armement létal.
Et face à la délinquance qui augmente, on a vu les récents chiffres, il n'y a pas besoin justement de doter cette police municipale.
Justement, la police municipale n'a pas vocation à remplacer la police nationale. Elle a vocation à tranquilliser la ville, à être présente. Je constate d'ailleurs avec nos équipes qui sont déjà déployées sur le terrain, Michel Felquet avec ses équipes fait des points rencontres avec les habitants. C'est quelque chose de très efficace de voir ces personnes, que les commerçants les connaissent, les reconnaissent, qu'on puisse, à l'échelle de cette ville du quart d'heure, parce qu'elle aura aussi son rôle dans la ville du quart d'heure, cette police municipale, apaiser la ville. Mais pour autant, elle n'a pas vocation à remplacer la police nationale, qui doit rester sur les questions de délinquance, de trafic de drogue et autres, qui sont aussi des fléaux qu'on voit à Paris.
Les armées, c'est aussi une façon de les protéger. Aujourd'hui, dans le climat actuel anti-police qu'on connaît, voir le police municipale, c'est faire de vos agents une cible s'ils ne peuvent pas se défendre.
Vraiment, cet argument-là est un argument de plateau et pas un argument de réalité. Vous savez, heureusement qu'on n'arme pas les policiers pour qu'ils puissent tirer sur les citoyens. Enfin bon, On est quand même... faut sortir de ces arguments-là. La question de l'armement létal, c'est pourquoi faire ? Je constate que très peu de maires en France qui ont des polices municipales ont choisi cette option-là. Bordeaux, Lille, beaucoup d'autres ont fait le même choix que celui que je fais.
Vous avez fait la liste, effectivement, des problèmes qui peuvent surgir à Paris. Mais enfin, il y a aussi un problème premier qui est aussi la hausse de la délinquance, des cambriolages, absolument, des attaques, des délits. Et là, le rôle d'une police municipale, pour vous, n'est pas probant ?
Ça reste un rôle de la police nationale. Mais évidemment que la présence sur le terrain de personnes en uniforme qui apaisent la ville, qui font respecter les règles du jeu, évidemment que ça fait diminuer. Vous savez, la période juste après les attentats de 2015, quand on a eu le déploiement notamment de Sentinelle avec des militaires.
Opération Sentinelle, oui.
Oui, on a assisté à ce moment-là à une baisse extrêmement importante du nombre de cambriolages, de vols à la tire dans Paris. Bon, donc la présence d'uniformes sur le terrain, elle a aussi cette vocation d'apaisement. Et la police municipale doit jouer son rôle. Vous savez ce que nous disent souvent, d'ailleurs les Parisiens ne confondent pas les rôles des uns et des autres. Ils savent très bien que sur le terrorisme, la grande criminalité, les trafics de drogue, ça reste du domaine de la police nationale. Et il faut qu'ils puissent exercer. Ils ne sont pas assez nombreux, ils ne sont pas déployés sur le terrain. Et ça reste un problème, d'ailleurs, pas que à Paris, mais c'est un problème à Paris. Et donc, nous, évidemment, apporter cette présence humaine, parce que c'est de la présence humaine aussi qu'il faut sur le terrain. C'est aussi cette contribution que je fais pour que notre ville soit plus apaisée, qu'on puisse mieux vivre ensemble.
À propos des défis d'apaisement et de présence humaine, justement, il y a bien sûr la situation assez dégradée, entre le port de la Chapelle, le port de Bervilliers, avec la présence des migrants, la manière dont ils sont obligés de rester sur place. Vos adversaires vous mettent en cause également dans votre politique de ce point de vue-là. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
D'abord, et je suis
est-ce
avec
que c'est une crise
Dominique,
humanitaire
c'est une crise humanitaire sans précédent. Je suis avec Dominique Versini, mon adjointe chargée des solidarités. Nous nous rendons régulièrement. J'ai dû aller 22 fois à la porte de la Chapelle et porte de Bervilliers ces derniers mois pour prendre vraiment la mesure de ce qui se passait. Il y a un problème d'accueil des réfugiés en France. Ça, c'est de la politique nationale. D'ailleurs, il y a un très bon rapport qui a été fait par Pascal Brice et quelques autres qui a été publié cette semaine qui montre qu'on est quand même loin du compte dans l'accueil. Par exemple, sur les campements à la porte d'Aubervilliers, aujourd'hui, il y a des personnes qui ont le statut de réfugiés, c'est-à-dire qui statutairement sont déjà réfugiées. Elles sont admises à être réfugiées et elles sont dans la rue avec Dominique Versini.
Qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire votre belle place de l'accueil la porte de la Chapelle que vous avez expliqué tout à l'heure?
Je finis là-dessus. Avec Dominique Versini, nous avons, il y a quelques semaines, ouvert un gymnase dans le 10e arrondissement pour accueillir des femmes et des enfants qui étaient à la rue dans le campement de la porte de Bervilliers. Nous avons trouvé une dame avec un petit bébé qui avait 3 semaines. Sur ses 3 semaines de vie, ce petit bébé avait déjà 15 jours de rue. Et c'est absolument inadmissible. Nous alertons les pouvoirs publics. On me dit, et tant mieux, qu'il va y avoir une mise à l'abri parce que j'ai refusé qu'il y ait des évacuations policières brutales.
Donc le ministère de l'Intérieur vous a donné des garanties.
Alors, ils nous ont donné des garanties. Ça fait quand même depuis le mois de novembre qu'on attend la mise à l'abri de la porte d'Aubervilliers. Ça devrait avoir lieu cette semaine. Tant mieux parce que la situation est indigne, absolument indigne. Et cette situation-là, elle relève d'abord de nos politiques nationales.
Donc, je me souviens que vous avez pris des positions aussi quand ils ont
bien
commencé
sûr,
à arriver.
Bien sûr, et j'ai pris des
Vous avez dit Paris, ville d'accueil, Paris, ville
bien
ouverte.
Bien sûr, et Paris, ville refuge.
Vous dites c'est indigne.
Non, mais j'ai toujours dit que c'était indigne. Paris, ville refuge, Paris, ville d'accueil, bien sûr, dans le respect du droit et des lois. Et nous avons toujours proposé des lieux d'hébergement pour pouvoir mettre à l'abri. La rue n'est pas un domicile possible. La rue, c'est un lieu de violence pour les femmes. Vous savez, j'ai ouvert à l'hôtel de ville une halte où nous avons des femmes qui dorment, toute l'année d'ailleurs. C'est une halte ouverte toute l'année. On a constaté lors de la première nuit de la solidarité il y a 3 ans qu'il y avait 12% de femmes dans la rue. Et c'est un lieu de violence absolue. On constate qu'en sortie de maternité, il y a des femmes et des enfants qui se retrouvent à la rue. On a vu une dame aussi avec Dominique Versini qui venait d'être opérée d'un cancer du sein et qui était avec sa toute petite fille et qui était à la rue dans le campement de la Porte d'Aubervilliers.
On est loin de la ville apaisée.
On est surtout loin d'un accueil humanitaire digne. Et franchement, j'ai un peu de colère quand je vous parle parce que je pense que ce n'est pas un sujet qui devrait occuper les plateaux de façon politicienne. J'ai souvent dit au ministre, à Julien Normandie et à tous les ministres que nous sommes là pour coopérer. Et d'ailleurs, la ville met à disposition des lieux pour héberger ces femmes et ces hommes. Et par ailleurs, quand on voit que 15 à 20% des gens qui sont dans la rue sont des réfugiés statutaires, c'est que oui, il y a un énorme problème de l'accueil et de l'accueil de droit, hein, tel que la France l'a posé dans notre pays. Et ça, il faut le résoudre. Alors, sur la porte de la chapelle, j'ai proposé, effectivement, parce que je connais très très bien ce quartier, j'y vais souvent, et je me suis dit, avec le maire du 18e, avec Éric Lejoindre, il faut qu'on donne aussi une perspective aux habitants de ce quartier. Ce quartier est en train de changer beaucoup. Il va y avoir une université, il va y avoir l'aréna, une très très belle salle de sport pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Il y a un grand jardin qui va être inauguré prochainement, le jardin Chapelle Charbon.
La place à nettoyer, que les gens soient mis à l'abri.
Sur la porte de la chapelle, la mise à l'abri a été faite et nous sommes en train de travailler justement sur cette grande perspective. Reste la porte d'Aubervilliers, où là, ça a duré beaucoup trop longtemps. Je suis vraiment aux côtés de la population, des habitants qui n'en peuvent plus. Et je leur dis que je serai là au moment de la mise à l'abri cette semaine.
On se retrouve dans quelques instants avec Anne Hidalgo.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et on retrouve la maire de Paris, candidate à sa propre succession, pour cette dernière partie du grand rendez-vous. Dans l'avion qui le ramenait de sa visite en Israël, le président de la République s'est emporté, exprimé au micro de nos confrères de Radio J contre les personnalités politiques qui ont pu soutenir l'idée que la France était une dictature. On écoute, on regarde, on écoute surtout avec le bruit de l'avion.
Aujourd'hui s'est installée dans notre société l'idée que nous ne serions plus dans une démocratie, qu'il y a une forme de dictature qui s'est installée. Mais allez en dictature! Une dictature, c'est un régime où on ne change pas les dirigeants, jamais. Si la France, c'est cela, essayez la dictature et vous verrez.
Anne Hidalgo, est-ce que comme Emmanuel Macron, vous trouvez que les partis politiques, le PS y compris, ont été trop silencieux pour condamner les violences, les radicalités contre la réforme des retraites?
Vous savez, on est dans une société qui, certes, n'est pas du tout une dictature, là-dessus, soyons clairs, mais qui est une société dans laquelle il y a beaucoup de violence, beaucoup de... Je pense que le fait que les corps intermédiaires n'aient pas pu jouer leur rôle, que les partis politiques traditionnels, celui auquel j'appartiens toujours, le Parti Socialiste, se soit quand même effondré, qu'il y a eu tous ces bouleversements en 2017, nous sommes dans une autre donne politique qui est effectivement très déstabilisante. Et il faut trouver le chemin du dialogue. Il faut absolument trouver le chemin du dialogue et du respect, condamner les violences lorsqu'elles sont commises, d'où qu'elles viennent, évidemment, les condamner fermement et puis trouver le chemin de l'apaisement et du dialogue.
Vous dites qu'il y a eu un recul des libertés depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron ?
Je ne vais pas m'inscrire dans ce propos direct, mais il faut faire très attention. C'est vrai qu'après les attentats, il y a eu des mesures d'exception qui ont été prises et il fallait les prendre pour nous protéger collectivement.
C'était avec la présidence de François Hollande.
Voilà, lorsque ces mesures ont été prises, le débat a eu lieu sur attention. Qu'est-ce que cela donne lorsque l'on revient à un temps où elles sont moins nécessaires parce que les circonstances, par exemple, d'attaque extérieure, ne sont plus les mêmes. Et donc, bien sûr qu'il faut toujours avoir la préoccupation des libertés publiques et il faut que ceux qui exercent ces fonctions d'autorité le fassent toujours sous le contrôle, d'abord sous le contrôle des journalistes. Vous avez un rôle très très important pour rendre compte de ce qui se passe sur le terrain et dans la réalité, sous le contrôle de la justice, sous le contrôle de nos institutions. Je pense qu'une démocratie, et nous en sommes une, nous sommes une grande démocratie, doit vraiment être fière de pouvoir avoir des voix de droit et des voix, des paroles qui s'expriment pour rappeler voilà, les risques, sans pour autant que l'on... On exprime l'idée qu'on est basculé vers un autre
justement,
régime.
Justement, effectivement, est-ce que la rue n'est pas souvent finalement beaucoup entendue ? Ce pays reste effectivement très en colère, ça on le sent bien. Vous le sentez aussi, cette réforme des retraites secoue toute la société. Emmanuel Macron dit « je n'arrêterai pas de réformer ». Vous vous dites au fond, il a raison, vous êtes sur cette ligne-là également, il faut faire cette réforme des retraites qui remet l'égalité selon lui.
D'abord, vous savez,
vous êtes issu d'un parti qui a fait la promotion également de cette
réforme. Il y a une très grande déstabilisation, il y a une très grande perte de confiance hein, des citoyens, de nos concitoyens. Ce n'est pas simplement vrai en France. Hein. D'ailleurs, l'étude de l'OCDE dont on parlait tout à l'heure montre que la déstabilisation des classes moyennes partout dans le monde qui s'accrochent hein, pour essayer de se maintenir avec des prix de logement extrêmement élevés, avec une inquiétude très forte pour leurs enfants, parce que les systèmes d'éducation sont en train de devenir des systèmes extrêmement coûteux et extrêmement sélectifs, et sur la santé, qui est quand même un sujet numéro un, où les gens se disent...
Qui est sorti en tête du grand débat
voilà,
après
les gens se disent, s'il m'arrive un pépin, il se passe quoi dans ma famille ? Il se passe quoi ? On a la chance d'avoir un système de protection sociale en France dont on sent bien qu'il est
déstabilisé. Donc vous expliquez pourquoi finalement le mouvement populiste, comme on dit, est en train d'avancer.
Non, je n'explique pas du tout le populisme et je m'en tiens très très loin. Mais ce que je sais, c'est que si par exemple les Français savaient quel allait être leur niveau de retraite et quand ils pourront partir à la retraite de façon claire, ils seraient certainement
donc
moins inquiets.
Vous n'êtes pas opposé à la réforme, mais simplement
la
vous dénoncez
chose,
un manque de pédagogie.
Je pense, vous savez par exemple, on nous a expliqué pendant longtemps que voilà, pour répartir de la richesse, il faut la créer. Bon, en France, on crée, voilà, la France crée par le PIB, hein, c'est mesuré par le PIB, environ 30 milliards d'euros par an de richesse. Qu'une partie de ces richesses créées soit remise dans de la redistribution, qu'on conforte notre modèle social qui est très important, qu'on donne, par exemple, sur la question
vous
des retraites...
Vous auriez été député, vous auriez voté cette loi ?
Je ne crois pas. Que l'on donne,
Vous n'auriez pas voté cette loi ?
Je continue. Que l'on donne, par exemple, une possibilité de financer mieux la solidarité, notamment, vous savez, les gens qui arrivent à la retraite, ils se disent, bon, je vais être fragilisé, mon âge qui s'accroît, et deuxièmement, je ne sais pas combien je vais percevoir. On ne peut pas partir sereinement avec, je dirais, autant d'incertitudes. La richesse produite en France, une partie d'entre elles peut aller vers ça. Une autre partie aussi, vous savez, on a fait en sorte que les produits financiers contribuent un peu à l'équilibre du régime des retraites, ça ne serait pas un scandale. Donc il y a des voies, il y a des chemins par le dialogue toujours et par le dialogue social. Moi, je pense qu'il faut vraiment revenir à cette démocratie sociale par le dialogue social.
Vous n'auriez pas voté
pour avancer.
Ce texte
non,
à l'Assemblée.
Non, c'est
Damien
vrai.
Fleureau, continue.
Anne Hidalgo, une question très simple aussi. Est-ce que le Parti Socialiste, dont vous faites partie, vous l'avez rappelé dans l'émission, doit avoir un candidat en 2022 pour l'élection présidentielle ?
Oula, vous savez, on en est très, très, très loin. Je veux juste revenir un peu sur les violences. Juste un instant sur les violences tout à l'heure.
Après, vous répondez.
Et je réponds, vous inquiétez pas, je réponds. Mais sur les violences, on a quand même eu pendant plus d'un an, hein, toutes les semaines à Paris, des violences. Les commerces, nos équipes municipales ont préparé, réparé. On est venu et on est en soutien des commerçants. Donc, on vit quand même hein, depuis à Paris notamment, mais ailleurs aussi, depuis plus d'un an et demi maintenant, un climat social qui n'est pas qu'on ne peut pas accepter, et il faut trouver les chemins d'un dialogue. Je constate d'ailleurs que quand les organisations syndicales traditionnelles sont celles qui organisent les manifestations, il y a quand même beaucoup moins de débordements. Il y a moins de débordements, mais voilà, je voulais quand même dire cela parce que ça a été très très dur.
Alors cette question 2022, c'est très très loin. Votre parti, d'autres partis se
préparent. Mais c'est quand
même
demain en temps politique.
D'abord, je le redis, hein, moi je ne suis pas candidate. Pour 2022, et soyons très très clairs là-dessus. Qu'il y ait besoin de travailler à une offre. Je pense qu'il y a place pour une offre social-démocrate et écologiste dans notre pays, comme on le voit d'ailleurs dans d'autres pays européens. Je regarde ce qui s'est passé au Danemark, je regarde l'Espagne, je regarde le Portugal.
Regarde la France. Qu'est-ce que vous nous dites sur la France ?
Oui, mais vous savez, souvent, c'est bien de regarder, pas simplement son nombril, et d'essayer d'élever un petit peu le débat, même si le nombril est magnifique.
On a compris. Non, mais vous êtes maire de Paris,
je suis très attachée, très attachée à mon pays aussi.
Et n'oubliez pas que vous n'y pensez pas. Alors,
Mais je pense qu'il y a place d'abord pour quelque chose de plus équilibré. Voilà, de plus équilibré. Moi, je suis extrêmement soucieuse de notre modèle social. Dans ce modèle social, quand vous regardez les grandes social-démocraties,
est-ce que le PS peut avoir un candidat en 2022 ?
Je vais vous répondre. Il y a deux piliers. Il y a l'éducation et la santé, qui sont ces deux piliers qu'il ne faut pas atteindre. Au contraire, il faut les renforcer. Et donc, il faut travailler. Avant qu'on puisse dire qu'il y aura un candidat PS ou je ne sais qui pour cette grande famille...
Alors pourquoi Ségolène Royal, par exemple, elle se déclare d'ores et déjà, elle dit qu'elle va voter pour vous. Est-ce que vous la soutiendrez ?
Pour cette grande famille écologiste, social-démocrate, humaniste, avant qu'il y ait une figure, je pense qu'il faut du travail.
Il y a déjà une figure, de son point de vue.
Je pense qu'il faut beaucoup de travail.
Ségolène Royal.
Et qu'il faut essayer de comprendre ce qui nous est arrivé. Je pense que les partis politiques, y compris le mien, doivent vraiment faire leur introspection. Ils étaient trop tournés vers eux-mêmes, pas suffisamment vers la société. Il faut être dans travail avec... je pense que ça viendra aussi beaucoup du mouvement associatif. Vous savez, je constate quelque chose qui est très, très intéressant. C'est vrai qu'il y a cette perte de confiance dans le monde politique depuis 2017 et encore un peu avant. Et puis, en fait, on voit comme un vase, comme des vases communicants, une montée de l'engagement citoyen sur des causes qui sont des causes humanitaires, des causes environnementales, des causes sociales. Et c'est comme un effet de vase communicant. Il y a une envie d'engagement. Et cet engagement-là, notamment citoyen, il faut effectivement que des familles, qui sont les écologistes, les sociodémocrates, les humanistes, sachent dialoguer, proposer peut-être un jour une autre alternative.
Eh bien, on verra si effectivement vous arrivez à transformer ces vases communicants. C'était le grand rendez-vous d'Anne Hidalgo. Vous pouvez donc suivre cette émission donc sur podcast. À dimanche.